Deutéronome, chapitre 4, verset 1er. Et maintenant, Israël, écoute les règles et les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous entriez et que vous preniez possession de la terre que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous donne. N'ajoutez rien à la parole que je vous ordonne et n'en enlevez rien. Mettez en pratique les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les ordonne. Vos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à Baal-Péor. Tout homme qui a suivi le Baal de Péor, le Seigneur ton Dieu l'a exterminé de ton milieu. Mais vous, qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous en vie en ce jour. Voyez, je vous ai enseigné les règles et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a ordonnées pour les mettre en pratique dans la terre dans laquelle vous entrez pour en prendre possession. Vous les garderez et vous les mettrez en pratique parce que ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces règles et qui diront: seul un peuple sage et intelligent a de telles règles, un tel peuple est grand. Quelle est la grande nation dont les dieux sont aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est de nous chaque fois que nous crions vers lui? Et quelle est la grande nation qui ait des règles et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je place devant vous en ce jour? Nous sommes arrivés à une articulation importante du livre du Deutéronome. Rappelez-vous, ce livre contient le grand discours d'adieu de Moïse, prononcé peu de temps avant sa mort. Les trois premiers chapitres de ce discours sont consacrés à un survol historique. Moïse raconte le départ du peuple du Sinaï après le don de la loi, puis la nomination de juges, l'épisode des 12 espions, l'entrée ratée dans la terre de Canaan, suivie du retour dans le désert. Il rappelle aux Israélites les relations parfois difficiles avec les peuples de cette région. Dieu leur avait interdit d'attaquer les peuples descendants d'Ésaü et de Lot, mais il leur avait livré Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi du Bashan. Moïse raconte l'installation des tribus de Ruben, de Gad, ainsi que de la demi-tribu de Manassé en Transjordanie et leur engagement à soutenir la lutte des autres tribus pour la terre de Canaan qui n'avait pas encore commencé. La dernière fois, nous avons vu que Dieu a refusé d'exaucer la prière de Moïse de pouvoir entrer lui aussi dans la terre de Canaan. Maintenant, le survol historique est terminé. Et avant de faire l'exposé de la loi, qui constitue la plus grande partie du livre du Deutéronome, Moïse fait quelques remarques plus générales sur cette loi. Et c'est là que se situe le passage que nous venons de lire. Que dit Moïse sur la loi? Ma foi, des choses assez classiques, me direz-vous. Pas de quoi tomber de sa chaise. Moïse commence par inviter ses auditeurs à être attentifs. Le ton est assez solennel. Israël, écoute les règles et les ordonnances que je vous enseigne. Moïse exhorte le peuple à montrer du respect pour la loi. N'ajoutez rien à la parole que je vous ordonne et n'en enlevez rien, mais mettez en pratique les commandements de votre Dieu. À plusieurs reprises, le vieux leader insiste sur le fait que ces ordonnances viennent de Dieu lui-même. Mais ce qui a retenu mon attention, ce sont les raisons que Moïse invoque pour inciter le peuple à garder cette loi. Le premier point apparaît dès le premier verset. Et maintenant, Israël, Écoute les règles, les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique, afin que vous viviez. Afin que vous viviez. Leur aventure est une histoire de vie ou de mort. Et si Dieu leur donne la loi, c'est afin que vous viviez. C'est quelque chose qui ne va pas de soi pour les lecteurs protestants de la Bible que nous sommes pour la plupart. Nous qui passons le plus clair de notre temps sous la chaire de l'apôtre Paul. Paul a été impliqué dans une lutte sans merci contre des courants judaïsants qui ont menacé la jeune Église. Et sous sa plume, nous trouvons parfois la loi associée à la mort, en expliquant que le péché tire sa force du commandement de Dieu exprimé dans la loi, l'apôtre a pu dire « Ainsi, le commandement qui mène à la vie s'est trouvé pour moi mené à la mort. » Quoi qu'il en soit, Moïse, lui, a une vision résolument positive de la loi. Pour lui, elle est garante non pas de mort, mais de vie. Pourquoi ? Une façon de comprendre serait que celui qui met en œuvre les commandements de la loi vit moins dangereusement. Celui qui les méprise s'expose au danger. C'est sans doute vrai pour certains de ces commandements. Ainsi, celui qui viole le sixième commandement et couche avec la femme d'un autre, eh ben, il s'expose à la jalousie et peut-être à la vengeance du mari cocu. Mais il semble difficile d'en faire une règle générale. La loi interdit, par exemple, de consommer de la viande de chameau. Mais pour autant que l'on sache, cette viande en soi n'a rien d'intrinsèquement mauvais ou dangereux. Et pourtant, à en croire Moïse, celui qui respecte ce commandement et tous les autres est sur la voie de la vie. Pourquoi ? La réponse est, me semble-t-il, que la loi n'est pas simplement une loi comme les autres, mais un contrat d'alliance entre Dieu et son peuple. La loi donne les règles du jeu dictées par le grand suzerain à ses vassaux. L'Israélite qui méprise la loi, il rompt l'alliance dont il bénéficiait. Et c'est là que les choses deviennent dangereuses, car Dieu, c'est la vie. Celui qui se déconnecte de Dieu en rompant l'alliance, il va vers la mort. C'est pour cela que Moïse peut dire « Et maintenant, Israël, écoute les règles et les ordonnances que je vous enseigne pour les mettre en pratique, afin que vous viviez. » Non pas que la loi en tant que telle assure la survie de la personne, mais elle est le cadre de l'alliance entre l'homme et son Dieu. En violant la loi, l'Israélite se coupe de la vie avec un grand V. Moïse illustre ce constat en évoquant les événements de Baal-Péor. Les Israélites s'étaient alors laissés séduire par des femmes de Madian et s'étaient engagés dans la débauche et l'idolâtrie avec des conséquences effrayantes. La punition de Dieu a frappé le peuple. Vos yeux ont vu, dit Moïse, ce que le Seigneur a fait à Baal-Péor. Tout homme qui a suivi le Baal de Péor, le Seigneur ton Dieu l'a exterminé de ton milieu. Mais vous, qui vous êtes attachés au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous en vie en ce jour. Et ce n'est pas tout. Selon Moïse, il y a une deuxième raison pourquoi il faut que le peuple mette en œuvre la loi. Cette raison apparaît en verset 6. Vous les garderez, les commandements, et vous les mettrez en pratique, parce que ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces règles. En donnant une loi sage et juste à son peuple, Dieu compte attirer l'intérêt des autres nations. Nous voyons là une réalité qui apparaît parfois en filigrane dans l'Ancien Testament et qui est présente dès la vocation d'Abraham. Toutes les nations se béniront en toi et par ta descendance, dit Dieu au patriarche. En choisissant Abraham et sa descendance, Dieu vise au-delà d'Israël. Toutes les nations sont dans le collimateur. Mais c'est vrai, ce n'est qu'après la mort de Jésus que cette promesse éclatera réellement. Et alors, me direz-vous. Et alors, pourquoi tu nous ennuies avec la loi? Paul n'a-t-il pas dit que nous sommes plus sous la loi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis Moïse. Une nouvelle alliance a vu le jour. Et pourtant, il serait dangereux de jeter la loi à la poubelle comme une vieille chaussette trouée. Écoutez bien ce que dit Jérémie quand il annonce la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. » Ce qui semble distinguer ces deux alliances, c'est que la loi n'est plus gravée sur des tablettes et inscrite sur des rouleaux, mais écrite dans les cœurs. Elle est intériorisée. L'esprit s'installe chez le croyant. Mais n'empêche, elle est encore là, la loi. Je me suis intéressé à ce que Jésus dit lui-même sur la loi, lui qui était encore sous la loi. Et j'ai constaté qu'il n'en parle qu'en bien. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi, dit-il. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Quand on lui demande ce qu'il faut faire pour accéder à la vie éternelle, il répond par une question. Qu'est-il écrit dans la loi? Et en parlant des spécialistes de la loi, il dit « Les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront. » Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Comment leur comprendre que nous ne sommes plus sous la loi? La nouvelle alliance se fonde sur la mort de Jésus. C'est parce qu'il a payé le prix et pris sur lui la sanction de nos fautes, selon la loi, la mort, que nous pouvons être déclarés justes devant Dieu. Si nous mettons notre confiance en Jésus et son œuvre. Le moyen de la justification n'est donc plus la loi. C'est en ce sens que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et celui qui retourne alors à la loi pour y trouver la justice, il rejette la nouvelle alliance, il va vers la mort, ce qui explique ces passages sous la plume de l'apôtre Paul. Alors, les commandements, peut-on s'en débarrasser? Je me souviens de la première fois que j'ai mis un pied dans cette église, en 98. Il y avait une bannière à cet endroit, me semble-t-il. Et sur cette bannière, il y avait un personnage, je crois que c'était quelqu'un qui se faisait baptiser, et une citation de l'évangile de Jean, où Jésus dit à ses disciples, « Tenez-vous bien, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » On dirait que les commandements ont la vie dure. Mais quels sont les commandements de Jésus? La bannière en question semble faire allusion à l'ordre de Jésus de faire des disciples et de les baptiser. C'est une lecture légitime. Mais au moment où Jésus parle, il n'a pas encore donné cet ordre. Cet ordre, il vient après la résurrection. Il semble donc, a priori, viser autre chose. Il y a un texte dans les évangiles où Jésus se comporte comme un législateur. Vous connaissez ce texte, c'est le sermon sur la montagne. La loi a été donnée sur une montagne, et c'est sur une montagne que Jésus fait ce discours. Et il parle exactement comme quelqu'un, comme s'il donnait une nouvelle loi. Par exemple, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Ça, c'est la loi. Mais moi, je vous dis. Il ne serait donc pas aberrant de voir derrière les commandements de Jésus les impératifs du sermon sur la montagne? C'est une bonne piste à première vue. On peut quand même observer que l'évangile de Jean ne parle a priori pas du sermon sur la montagne. Et d'ailleurs, le sermon sur la montagne semble encore plus difficile à mettre en œuvre que la loi de Moïse, tellement il met la barre haut. Quoi qu'il en soit, comme l'Église est actuellement en train d'étudier ce grand texte dans les groupes de quartier, je ne vais pas anticiper sur ces travaux. D'autant plus qu'il y a encore autre chose. Quand on lit l'évangile de Jean, on tombe quelques versets avant le passage qui évoque les commandements de Jésus sur la parole suivante du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. C'est peut-être là la réponse. Quand on a demandé à Jésus, quel est le grand commandement de la loi? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amour de Dieu, amour du prochain. Voici l'essence de la loi et des prophètes. Et ces exigences, n'en doutant pas, restent intactes dans le régime de la Nouvelle Alliance. Vient alors Jésus avec son commandement nouveau, amour des frères et sœurs. C'est en effet une des nouveautés de la Nouvelle Alliance qu'il établit une communauté unie par l'Esprit qui agit en tous et qui suscite non pas un lien de sang, mais un lien d'amour. Cet amour est justement l'un des fruits de l'Esprit. Et vous remarquerez que ce commandement nouveau amplifie l'effet que Moïse attribue à sa loi. Premièrement, il est porteur de vie. Celui qui dit être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres, dit Jean dans sa première épître. Mais celui qui aime son frère demeure dans la lumière et en lui, il n'y a pas de cause de chute. Et encore, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. Pour utiliser le mot de Moïse, on pourrait dire « Aimez-vous les uns des autres afin que vous viviez ». C'est en manifestant cet amour que nous attestons appartenir au peuple de la Nouvelle Alliance. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas entré dans cette alliance et la mort vous guette toujours. Et derrière le commandement nouveau, comme derrière la loi de Moïse, on trouve également le souci de ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette alliance. Après avoir évoqué son commandement nouveau, Jésus dit, « Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Tous sauront. Et ils seront attirés par ce qu'ils voient. N'en doutons pas, nous ne sommes peut-être plus sous la loi, mais nous sommes liés par ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Vous me direz peut-être, tout ça c'est très beau, mais comment faire? Il y a bien tel frère, telle sœur que j'aime. Il y en a un paquet que j'aime beaucoup moins, voire pas du tout. Tel frère, il m'agace dès qu'il ouvre la bouche. Et d'ailleurs, il pue des pieds. Comment puis-je l'aimer? Dis-moi comment? Je suis un peu mal à l'aise pour répondre à cette question, ne serait-ce que parce que c'est un gros chantier pour moi-même. Mais je vous dois quand même une réponse. On entend parfois dire que tout cela est une question de volonté, que l'amour qui nous est demandé n'est pas tellement une affaire de sentiment, mais plutôt un effort une orientation de notre volonté vers le bien de ceux que nous sommes censés aimer. Sinon, nous dit-on, comment voulez-vous que Jésus nous commande d'aimer ? Les sentiments, ça ne s'ordonne pas, n'est-ce pas ? Je crois qu'il y a du vrai et du faux dans cette affirmation. Mais surtout, il me semble qu'il ne faut pas commencer par là. Qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. Sinon, on court le risque d'en rester à l'apparence, de se comporter comme si on aimait, de s'installer dans une certaine hypocrisie souriante. C'est vrai que l'amour ne se commande pas. Mais en même temps, ce n'est pas le seul commandement de ce genre dans la Bible. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle, dit Jésus. Il exige la repentance et la foi. Or, que je sache, on ne peut pas se repentir sur commande, ni croire. Mais voyez-vous, comme saint Augustin l'a bien dit, Dieu donne ce qu'il ordonne. Il s'ensuit que si nous manquons d'amour, il faut que nous nous tournions en premier lieu vers Dieu. En effet, tout amour humain digne de ce nom est un reflet de l'amour de Dieu. Dieu est amour, dit Jean. Si tu as mal, si tu as du mal à aimer ton frère, ta sœur, il faut commencer par demander à Dieu de te donner un peu de son amour. Il m'est difficile de penser que ce Dieu qui est amour puisse refuser une telle demande s'il est sincère. Ceci étant dit, comme toujours, il ne faut pas s'en contenter. C'est un peu facile de dire, j'ai demandé à Dieu, mais il ne m'a pas donné cet amour pour telle personne que je lui ai pourtant réclamé. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu nous demande de marcher avec lui. Une fois que nous avons reconnu que cet amour doit nous venir de Dieu, nous pouvons revenir sur le constat que l'amour, au sens biblique, n'est pas tellement une affaire de sentiments. Autrement dit, ayant mis les bœufs devant la charrue, on peut maintenant quand même s'intéresser à la charrue. Et le premier grand commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et quand Jésus le cite dans les évangiles, il ajoute « de toute ton intelligence. » S'il est question de cœur dans ce passage, il ne faut pas oublier que c'est un faux ami. Pour un Israélite, le cœur ne désigne en général pas le signe des émotions. Ce sont plutôt les tripes. Mais le siège de la personnalité et de la volonté. Voilà ce que le cœur est pour l'Israélite. L'amour dont il est question est donc avant tout un engagement résolu qui implique notamment l'intelligence et la volonté. Évidemment, ça n'exclut pas les sentiments. Mais il serait sans doute erroné de vouloir commencer par là. Pour répondre au commandement nouveau de Jésus, il ne suffit donc pas de se reposer sur Dieu, mais il faudra donner une certaine orientation à notre volonté. Jésus nous demande de nous mettre dans une bonne disposition envers nos frères et sœurs. Comment faire ? Pour bien disposer notre esprit, je crois qu'il convient de nous placer devant le Seigneur. Lui au moins tu l'aimes, n'est-ce pas ? Sinon tu ne serais pas ici sans doute. Il t'a aimé au point de crever sur la croix à ta place. Il t'a réconcilié avec le Père, il t'a donné un avenir. Tu es des siens et rien ni personne ne peut changer ça. Comment ne pas l'aimer en retour ? Et maintenant, essaie de penser à tel frère, à telle sœur avec qui tu as du mal. Il est un frère, elle est une sœur, parce que lui ou elle aussi, il a été donné au Fils par le Père. Parce que lui aussi, Jésus l'a aimé. Parce que pour lui aussi, Jésus est monté sur la croix. Parce que lui aussi, il lui appartient maintenant. Comment peux-tu aimer Jésus et détester ou être indifférent envers celui qui l'a aimé à ce point. Ce n'est pas possible. Si tu ne l'aimes pas pour ce qu'il est, et là il y a sans doute de bonnes raisons de ne pas l'aimer, aime-le au moins parce que Jésus l'aime. Pour changer de l'action à la pensée, il me semble qu'il faut commencer petit. À défaut de marcher tout de suite dans la plénitude de l'amour, on peut fréquenter sa petite sœur, la bienveillance. Si tu as du mal avec un tel, une telle, ou si cette personne est indifférente, c'est peut-être encore plus grave. Mets-toi devant le Seigneur, qui vous aime tous les deux, et prends la résolution de la bienveillance. Prends l'engagement de chercher le bien de cette personne et demande l'aide du Seigneur pour y parvenir. À chaque fois que tu peux lui faire du bien, que ce soit en parole, que ce soit en acte, eh bien, fais-le. N'oublie pas non plus de prier pour cette personne. Assez rapidement, tu verras que tu manqueras de sujets de prière. Il faudra alors s'intéresser un peu plus à cette personne, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle fait, quelles sont ses luttes, ses craintes, ses joies. Et peu à peu, tu découvriras que cette personne, elle aussi, elle a des côtés aimables. Et comment pourrait-il en être autrement, vu que cette personne est elle aussi créée à l'image de Dieu. Et même si l'image est bien abîmée, il en reste toujours quelque chose. Attention, je ne dis pas que ça sera forcément l'amour fou. S'il pue des pieds, et si tu as un nez sensible, tu continueras peut-être à avoir du mal avec lui. Mais ton regard changera. Peut-être demanderas-tu à Dieu de faire quelque chose pour ses pieds. Peut-être lui offriras-tu un savon. C'est une voix qui demande un peu de tact. Peut-être finiras-tu par demander à Dieu de te donner un odorat moins chatouilleux. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, tu verras que cette personne est elle aussi aimable. Et tu verras que toi, tu peux l'aimer comme un frère, comme une sœur. Et tu auras la satisfaction de savoir que tu mets en œuvre la volonté de celui qui t'a tant aimé, alors que tu n'étais guère aimable. Nous avons parcouru du chemin ce matin, des portes de Canaan à Golgotha, de la Via Dolorosa à la rue Guinmer. Nous avons parlé de la loi et de ses effets, et nous avons vu que même si nous ne sommes plus sous la loi, en un certain sens, le commandement de l'amour qui la sous-tend reste en vigueur, plus que jamais. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, que vous vous aimiez les uns les autres. Il enfonce le clou en disant, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'aimons-nous ? Si oui, que la semaine qui s'ouvre nous voit à l'œuvre dans le grand chantier de l'amour fraternel.